Bonjour à tous, vous écoutez Quinoa Superstar. Quinoa Superstar est un podcast lyonnais qui donne la parole à des invités qui ont tous un point commun, ils veulent que le monde dans lequel on vit soit un petit peu plus beau chaque jour. Pour cela, ils ont chacun leur méthode, leur histoire, on les reçoit pour en discuter avec eux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de fondation d'entreprise, nous allons parler de mieux vivre ensemble, nous allons parler accompagnement des dirigeants et nous allons parler de handicap international. Et pour en parler, on reçoit Jacques Tassy et Estelle Rabillet. Bonjour Estelle, bonjour Jacques.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, et toi ?
Eh bien, ça va très
impeccable.
Bien. Je suis ravi de vous recevoir. Ensemble, on va parler de la fondation Émergence. Dont Jacques est l'un des, on dit fondateurs, c'est ça ?
Moi, je suis en fait personnalité qualifiée, qui est un statut spécifique.
Donc, d'accord.
Il y a des fondateurs et il y a des personnalités qualifiées.
Donc nous avons Jacques, personnalité qualifiée.
C'est joli. Hein.
c'est impressionnant.
Ah bon, ça m'impressionne moi-même. D'ailleurs.
Et nous avons Estelle, qui a pour rôle...
De suivre l'accompagnement des projets et puis de communiquer un peu sur la Fondation Émergence. Donc moi, je suis salariée.
Très bien. Donc ensemble, on va parler de la Fondation Émergence. On va prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est. Déjà, est-ce que l'un ou deux peut nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Fondation Émergence ? Qui se lance ?
C'est Jacques.
C'est Jacques.
La Fondation Émergence, c'est un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises qui aident des porteurs de projets entrepreneuriaux, créateurs de liens sociaux et d'emplois.
Donc, quand on dit projets entrepreneuriaux, ce sont des projets qui ont quand même une spécificité, c'est que ce sont des projets qui vont avoir une vocation peut-être donc sociale ou une vocation de...
Oui, c'est ça. C'est créer du lien social à partir d'une structure qui peut être une association ou qui peut être une société.
D'accord, donc les associations sont aussi éligibles à l'accompagnement d'Émergence ?
Oui, absolument, d'ailleurs. Il y a une majorité d'associations.
De projets de format associatif. Très bien. De quelle manière vous accompagnez ces projets, peut-être Estelle ?
Alors, par du bénévolat en compétences de la part des chefs d'entreprise qui sont à la Fondation. Donc, on a 40 chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont dans les starting blocks et qui aident les porteurs de projets ou qui sont prêts à les aider pour ceux qui n'ont pas encore de filleuls. Et puis, on a aussi de la mise en relation, en fait, à travers des soirées ou des temps collectifs entre porteurs de projets ou enfin entrepreneurs sociaux. Et puis, avec les fondateurs de la Fondation.
Et les personnes qualifiées.
Et les personnes qualifiées.
Non, ça y est, j'ai compris.
N'oubliez pas.
Je suis porteur de projet, je viens voir Émergence. Pendant combien de temps vous m'accompagnez ?
Alors, on accompagne aujourd'hui les porteurs de projet un an renouvelable deux fois, donc ça fait trois ans. C'est long, mais l'idée, c'est de passer, enfin, de vraiment pérenniser le projet et de passer la barrière des trois ans d'activité, qui est la plus difficile à passer. Donc, on essaye de les aider là-dessus avec une sorte de mentorat, en fait, tous les mois à peu près, où on les voit.
D'accord. Les trois ans, c'est la frontière à laquelle une société sur trois a survécu. Je crois que c'est à peu
près
ça.
C'est ça, ouais. Exactement.
Et chaque projet a on appelle ça comme un parrain, un tuteur, enfin
on peut dire un
mécène,
parrain, un référent, ou deux. En fait, la plupart du temps, ils en ont même deux. Souvent, c'est un dirigeant et un collaborateur, mais de deux entreprises différentes, pour apporter à la fois une expertise, une expertise plus particulière, et puis un accompagnement global, en fait, de la part d'un chef d'entreprise qui est un peu touche-à-tout, finalement, dans son activité lui-même.
Qui a une vision, qui peut prendre un peu de recul par rapport à l'activité.
Exactement.
Très bien. Comment a été créée la fondation et comment est-ce qu'elle fonctionne ? Peut-être Jacques ?
Alors, comment elle a été créée ? Je ne suis pas assez ancien, moi je suis tout jeune, donc...
Oui, c'est ça.
J'ai pas connu ça. Je ne sais pas, Estelle, toi
Alors, elle a été créée à l'initiative d'une dizaine de chefs d'entreprise lyonnais. qui avaient envie en fait d'agir sur leur territoire, voilà, sur la partie sociétale de leur territoire, en disant bah voilà, nous on a une vision économique, on connaît bien le secteur, mais on a aussi des idées et on peut aussi professionnaliser des porteurs de projets sociaux qui pourraient faire du bien à notre territoire.
C'était quand ça?
Et ça, c'était en 2008.
D'accord. Donc la fondation a une dizaine d'années aujourd'hui.
Exactement, exactement. Et du coup, ils sont montés. Donc il y avait l'initiateur s'appelle Jean-Brunel Comte. Il s'est entouré d'autres fondateurs, donc comme par exemple Bruno Lacroix. Donc c'est des chefs d'entreprise lyonnais assez connus. Et puis ils ont agrégé autour d'eux aujourd'hui 40 entreprises. Et puis ils ont passé la main. Donc voilà, aujourd'hui ce sont de nouveaux entrepreneurs et dirigeants qui reprennent cette action.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un modèle économique à la fondation?
Alors, le modèle économique, c'est que tous les fondateurs mettent le même montant dans la fondation. Donc, c'est 5 000 euros par fondateur qui vient au sein de la fondation, 5 000 euros par an, que eux peuvent défiscaliser. Mais l'idée, c'est surtout qu'ils amènent leur temps, en fait, le temps qu'ils ont eux et puis celui de leurs collaborateurs pour accompagner les projets.
Donc, avec un engagement sur 3 ans, c'est ça ?
Un engagement sur 5 ans, oui.
Sur 5 ans ?
Oui, tout à fait. Donc, les fondations d'entreprise, en fait, sont sous forme de quinquennat. C'est un statut un peu particulier.
Ouais. Ce qui veut dire qu'on est en présence de chefs d'entreprise qui donnent de leur temps et de l'argent pour faire vivre la fondation.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un modèle économique alors, qui peut sembler à perte pour un entrepreneur, mais qui est finalement une forme de transmission peut-être et de rendre à l'écosystème un peu ce qu'il nous a donné.
Exactement. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a aussi l'idée d'apprendre de l'écosystème social, en fait.
Ouais.
Et de travailler avec cet écosystème-là et d'apprendre un peu tout ce qui est innovant en termes de social, de responsabilité sociale pour eux, en fait.
Une fondation, en fait, c'est ça. Hein, c'est une structure juridique qui a vocation à porter une cause d'intérêt général qui est mise en place par des donateurs.
Il y a un côté militant dans la démarche des fondateurs ou c'est plus une association de copains?
C'est variable, je pense qu'il y a plusieurs approches. Militants, oui, il y en a sûrement quelques-uns, mais je dirais que c'est une minorité. Moi, je fais partie des militants.
Ouais.
et puis après, effectivement, il y a des gens qui sont aussi contents de se retrouver à cette occasion.
Il y a un petit côté club de patrons, enfin club de comment on appelle ça, pas un club d'affaires.
Club d'affaires, je trouve que ça serait trop marqué, quoi.
Ouais.
Les gens viennent pas là pour faire des affaires. Alors après, ils sont contents de se voir, mais ils viennent pas là pour ça.
Quoi. Ouais, ils viennent quand même pour les causes sociales, même si ils sont pas des militants très prononcés. C'est quand même des gens qui aiment se retrouver autour de ces causes-là, des porteurs de projets, de la mixité, du handicap, de l'inclusion, etc.
Donc on parle de 40 patrons lyonnais qui donnent de leur temps et de leur argent pour soutenir des projets émergents, d'où le nom de la fondation, j'imagine, associatifs ou des projets d'entreprise.
Oui, mais si ce sont des entreprises, il faut qu'elles aient vraiment une cause
vocation sociale.
Donc on parle d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, principalement.
Tout à fait.
Qui ont vocation à... Je rappelle pour les auditeurs qui n'ont super ça ce que c'est, parce que c'est un peu le thème de base de notre émission. Ce sont des entreprises, donc, vous me corrigez si j'ai une bêtise, qui ont pour vocation à défendre une cause, mais en étant viable économiquement. On est sur ce modèle-là.
Oui, absolument. Oui.
Parlons un peu des projets, du coup, que vous avez accompagnés. Parce qu'en 10 ans, il y en a un paquet qui ont dû passer, maintenant.
Oui, 45.
45 projets accompagnés. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns, peut-être que... Alors, je crois qu'il y en a qu'on a reçus, déjà.
Exactement. Alors, vous avez reçu la cuisine itinérante. Donc, pour ceux qui veulent se référer au podcast, Axel Hernandez. Vous avez reçu également Caroline Libby, qui porte Appart Essence.
Ah, je ne savais pas. Très bien.
Voilà, qui est rentrée également à la Fondation. On a aussi un projet qui est assez connu à Lyon maintenant, qui s'appelle Les Petites Cantines, qui est porté par Diane Dupré-Latour. Un projet, Diane, c'est des petites cantines pour recréer du lien pour les personnes en isolement et puis pour la mixité sociale de manière générale. On a aussi Andy Voyage qui donc lui a créé une plateforme pour que les personnes en situation de handicap puissent partir en vacances en famille à des prix décents et avec des locaux où ils sont sûrs que tout va bien se passer pour eux, avec tout le matériel et médical également qui est nécessaire, etc. On a, bon, ça fait déjà pas mal, 4, 3, 4.
C'est les plus récents peut-être, cela.
C'est des récents. Alors, le premier projet accompagné, c'est la Cafette au Môme, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse, qui accueille les enfants en périscolaire et puis les parents qui ont envie de partager sur la parentalité. Et qui aujourd'hui a ouvert une deuxième cafette, qui est en bas des pentes de la Croix-Rousse aussi. Donc, voilà.
Du coup, en tant que personne qualifiée, c'est ça le terme. En tant que personne qualifiée, vous accompagnez vous. Alors, on a dit qu'on se tutoyait. Je commence à vous voyer, Jacques. Tu accompagnes toi-même des projets ?
Oui, là actuellement, depuis peu, j'accompagne un projet qui s'appelle Raconte-moi un match, que je trouve absolument génial parce que ça consiste à prendre des collégiens qui, au fond, ont transformé en langue identitaire leur jargon local, et à leur apprendre à commenter un match de foot. Et donc, il y a un concours à l'issue de ça. Il y a un concours, il y a quelqu'un qui gagne le concours des commentaires. Je trouve ça génial parce que c'est apprendre le français par la passion. Et donc, du coup, on est sûr que les gamins, si on peut les appeler ainsi, vont être motivés.
On est un peu sur le modèle des concours d'éloquence.
Oui, c'est une forme de concours d'éloquence, mais comme c'est avec des jeunes qui sont quand même plus marginalisés, enfin qui s'auto-marginalisent davantage, ça se fait à partir de leur passion, et souvent leur passion, c'est le foot, quoi.
Les projets que vous accompagnez, comment est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Comment est-ce qu'ils vous rencontrent ? Comment est-ce qu'ils entendent parler de vous ?
Alors, les projets, en fait, nous viennent de deux sources principales. Les acteurs de l'entrepreneuriat social, donc les deux incubateurs Rhône-Alpia et Alter Incube notamment, RDI qui donc finance les projets en entrepreneuriat social, donc Rhône Développement Initiative. Pour les principaux, on a aussi le concours Billy's, avec son festival Eublo. Enfin voilà, donc on a plusieurs incubateurs ou financeurs de l'entrepreneuriat social qui nous envoient des projets. Et puis on a les fondateurs qui nous envoient aussi des projets. C'est notre deuxième source principale de projets. Et puis après, on a un peu de collectivité locale. Et puis les porteurs de projets, les anciens, qui commencent à proposer des nouveaux projets à émergence, parce que du coup, ça fait son chemin aussi. Donc, voilà.
Donc vous êtes maillé un peu avec l'écosystème local et du coup, maintenant, les gens proposent au projet de vous contacter, de vous rejoindre.
Exactement, parce que donc, l'idée d'émergence, c'était aussi de ne pas aller sur les plates-bandes de ce que font déjà les acteurs publics ou les acteurs privés qui sont financés. Et du coup, nous, on cherche à d'abord apporter notre valeur ajoutée, qui est de vraiment transmettre les valeurs et le savoir-faire d'un entrepreneur, mais aussi d'être là où ne sont pas les autres, quoi. Donc, du coup, on maille avec eux pour être sûr de bien répondre à un besoin.
Ouais. On a reçu Rhône-Alpia dans le podcast. C'est très complémentaire, effectivement, de ce qu'ils peuvent faire. Eux, ils sont peut-être là sur un temps plus court, par contre, de manière plus intense, probablement.
Exactement, plus collective aussi. Ouais. Nous, on est moins sur des parties collectives. On en a quelques-unes, mais c'est moins important. Et puis, eux, ils sont un peu plus en amont de ce que nous, on peut proposer, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont nos prescripteurs principaux.
Et donc, ce sont les acteurs de l'écosystème de l'économie sociale lyonnais qui vous recommandent et qui font que les projets entrent en contact avec vous. Une fois que les projets rentrent en contact avec vous, comment est-ce qu'ils sont retenus, sélectionnés ? Parce que j'imagine que vous n'avez pas la capacité de prendre tout le monde. Comment est-ce que ça se passe ?
Il y a un processus qui est...
Très collectif.
Très collectif. À vrai dire, on trouve même un peu long, d'ailleurs, actuellement. parce qu'il y a une première présélection qui est faite par les permanents. À partir de là, il y a un avis qui est demandé à un des membres de la commission porteur de projet. Alors après, dans quel ordre ? Est-ce qu'il y a la séance, une séance dite miroir ? C'est-à-dire une séance miroir, c'est-à-dire à l'occasion d'un déjeuner, on demande aux fondateurs qui sont disponibles de venir écouter le pitch du projet,
d'accord,
à l'issue duquel le groupe donne une opinion. Et ensuite, l'opinion est confortée ou pas par la commission porteur de projet, donc qui est composée de 5, 6, 7,
je sept, sais plus, oui, sept, sept fondateurs.
7 membres donc, qui se réunissent et qui discutent du projet pour savoir si on peut l'accompagner.
Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment de recevoir aussi les demandes du porteur de projet, ses besoins, et de voir si nous, on peut l'accompagner sur ces besoins-là, si on a les capacités de le faire, mm-hmm, si on a les bonnes personnes. Donc, du coup,
En fonction de l'industrie, enfin, l'industrie du thème sur lequel il travaille, en fonction de...
En fonction des compétences dont il a besoin, en fait, sur lesquelles, ouais, lui, il est un peu en faiblesse, et du coup, voilà, nous, on travaille vraiment là-dessus.
Ça dépend aussi de la maturité du porteur de projet. Est-ce que comment on le ressent ? Parce qu'effectivement, la réussite, elle est beaucoup liée aux personnes qui portent les projets. Mm-hmm. Après, c'est aussi mesurer le degré de lien social qui est dans le projet. Est-ce, ouais, que finalement, c'est vraiment un élément majeur de la motivation du porteur de projet ou pas ?
Ouais. Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent dans l'économie sociale. Comment vous arrivez à mesurer ça ? C'est la discussion avec le porteur de projet, finalement, qui va vous donner toutes les réponses ?
Je crois que ça va assez vite.
Ouais.
Passer une heure avec quelqu'un, vous voyez s'il a le truc dans les tripes ou pas, quoi.
Ouais.
Évidemment, sur le papier, des fois, on peut écrire ce qu'on veut, mais quand on est en face des gens, en quelques questions, on voit bien si ce sont des militants de quelque chose ou pas, quoi.
D'accord. Très bien. Quel conseil on donne aux gens qui veulent vous rejoindre, du coup, aux projets qui aimeraient être accompagnés par Emergence ou qui aimeraient vous rencontrer ? On donne le portable d'Estelle ?
Exactement. L'adresse mail d'Estelle, le portable d'Estelle.
Pour contacter la Fondation Emergence, et donc arriver en présélection, peut-être, c'est peut-être toi qui les rencontres à ce moment-là ?
Tout à fait. Je les rencontre une première fois après avoir effectivement validé avec la commission porteur qu'on était... Ça restait dans les critères et puis qu'on avait... Enfin, quelles questions on avait à leur poser. Donc oui, il faut me contacter moi. Donc je pense qu'il y a tous nos contacts sur le site internet.
Et puis on les mettra en commentaire du podcast.
Et puis voilà. Avec grand plaisir.
On ne mettra pas ton portable, ne t'inquiète pas.
Ça ne me pose pas de problème. Parce que l'idée, c'est quand même d'être...
Attention, on a des millions d'auditeurs.
Dans l'humain. Donc moi, j'aime bien appeler les porteurs de projets pour leur dire, les tenir au courant, etc. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger. Et puis qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Ben c'est si vous avez besoin de quelqu'un de personnes qui vous aident à prendre du recul, qui vous aident à vous perfectionner dans l'entrepreneuriat, qui vous aident à aussi avec leur carnet d'adresses, venez chez Emergence. Et puis faut pas hésiter à se professionnaliser. C'est super d'être militant, mais si on veut pérenniser le projet, il faut être professionnel. Donc l'idée de la fondation, c'est aussi ça.
Alors on est d'accord, Emergence ne finance pas les projets.
Non.
Donc là, il y a d'autres organismes pour ça. On en a reçu
Exactement.
Certains.
On les prépare indirectement à aller vers les financeurs. Et puis on connaît bien les financeurs privés. Mmh. On connaît aussi les financeurs publics. La BPI, la Caisse des dépôts et RDI sont quand même des partenaires très proches de nous. Mais voilà, nous, on les prépare, mais on ne financera pas directement les projets, c'est sûr. Mmh.
Donc pour les porteurs de projets, l'idée, je contacte Estelle. On va discuter ensemble, on voit si le projet est en adéquation avec les valeurs que porte la fondation. Et ensuite, je participe à la fameuse séance miroir, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et là, je me retrouve.
C'est le baptême du feu.
Et voilà, je me retrouve face à des personnes expérimentées qui vont me torturer pendant. Ça dure combien de temps une séance ? Une demi-heure ?
Deux heures !
Eh
oui ! Une heure et demie.
Alors, c'est une torture très spécifique parce que la règle, c'est d'être bienveillant pendant la séance.
Donc, c'est une torture bienveillante.
Mais c'est vrai qu'on interroge le projet dans tous les sens, ça c'est sûr.
Non, mais bon, après, c'est vrai que les entrepreneurs ont l'habitude de se faire étudier, décortiquer leurs projets. Soit par des financeurs, soit par des accompagnateurs. Très bien. Dans quel cas je ne contacte pas la Fondation Émergence si mon projet n'a pas de vocation spécialement sociale.
Voilà. Et alors, c'est un peu spécifique. Donc, on est vraiment sur la création de liens sociaux. Donc, si le projet a une vocation environnementale pure et qu'il n'y a pas de création de liens sociaux dans son projet, par exemple, on ne le prendra pas. On fait des choix pour en accompagner un certain nombre, mais pas tout le monde. Et donc, un projet purement environnemental, ce ne sera pas
chez
nous.
C'est pas votre cœur d'activité.
Voilà, un projet qui ne crée pas de lien social, en fait, n'aura pas forcément envie de venir chez nous.
Et il y a des acteurs qui sont proches de vous, qui sont un peu sur des thèmes équivalents, sur lesquels vous pouvez rediriger peut-être certains candidats.
Mais je pense qu'il y a dans le secteur public, il y a des acteurs de l'économie sociale, effectivement.
Oui, les incubateurs, en fait. Si le projet est trop en amont, on va rediriger vers les incubateurs.
Ronalpia Alter Incube,
exactement.
Il y a aussi Osons ici et maintenant qu'on a reçu, qui est peut-être un peu moins connu.
Qui est un peu encore en amont, mais qui est aussi potentiellement tout à fait quelqu'un vers qui on peut rediriger. Il y a également le réseau Entreprendre, si le projet est plus porté business. Et puis des incubateurs plus produits aussi quand le projet est plutôt un produit et non un service, comme l'incubateur de l'ECAM par exemple.
Ouais. Bon, on a la chance d'être sur un territoire qui est bien maillé.
Et
pour l'économie sociale et pour l'économie tout court. Donc effectivement, il y a un certain nombre de portes auxquelles aller taper.
Oui, la difficulté reste quand même le financement pour tous ces projets. C'est vraiment on est dans un pays qui aime pas financer l'amorçage.
Et qui n'aime pas financer le social, forcément. C'est peut-être que...
Oui, qui aime financer le social quand il fait de beaux résultats.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ou quand il y a un investissement, mais pas sur le fonctionnement. Enfin, moins ou moins.
Après, quelque chose qu'on a constaté, dont on a souvent discuté dans le podcast, il y a aussi les entrepreneurs sociaux qui ont une posture où ils ont souvent un peu honte de dire qu'ils vont essayer de gagner de l'argent avec un projet social. Il y a aussi peut-être ces barrières à lever pour les entrepreneurs. Vous les voyez peut-être, vous d'ailleurs, dans les gens que vous recevez, des gens qui sont peut-être purement militants.
Oui, ça arrive. Ça arrive, des gens, moi qui suis dans des trucs associatifs depuis longtemps, il y a 15 ans, quand on parlait d'ailleurs, on ne parlait pas de profit, on parlait d'excédent. Même en parlant d'excédent, il y a des gens qui disaient « Oh non, quelle horreur, mais je ne vois pas comment on peut financer le... » la croissance, l'évolution, si on fait pas de profit.
Et oui, sans modèle économique, les projets tiennent pas.
On confond, de part et d'autre, on confond finalité et moyens.
Oui.
Et de part et d'autre. J'espère un peu moins, moins côté social que côté business, parce que dans les écoles de management, on continue à exprimer que la finalité d'une entreprise est de faire des profits, ce qui est une énorme connerie, en tout cas pour moi. C'est un moyen.
L'argent est un moyen. Là, on est bien d'accord. Et c'est vrai que dans l'enseignement traditionnel, l'argent est le baromètre de la réussite, finalement, et même au niveau personnel des gens, beaucoup, ce qui amène peut-être des situations où les gens sont peut-être un peu perdus aujourd'hui sur pas mal de choses. Mais on le voit, on en reçoit beaucoup, des gens qui ont deux bacs plus 5 et qui se retrouvent à faire des projets très manuels ou partir sur des projets très sociaux, on en a beaucoup de plus en plus. Ce sont des gens qui ne se reconnaissent plus dans ces modèles où l'argent est le seul baromètre et le seul indicateur.
Oui, mais la jeune femme là qui fait Raconte-moi un match, elle a fait l'école supérieure de commerce de Paris, qui est une des meilleures écoles de management de France, quoi.
Donc voilà, on va essayer de la recevoir, parce que ça a l'air intéressant. Et c'est quelqu'un qui pourrait gagner 10 000 euros par mois en bossant dans un grand cabinet et qui a choisi de monter un projet social. Quoi.
C'est marrant parce que j'ai fait les decks.
voilà. Et pareil. Donc, et tu me disais que tu n'étais pas bien payé à Émergence, c'est ce que.
Extrêmement.
Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur la fondation ? Est-ce qu'on a dit suffisamment pour que les gens comprennent ce que c'est et que les entrepreneurs aient envie de vous rejoindre ? La réponse peut être oui, c'est pas une question piège.
Moi, je crois que ce qu'il faut dire, que ce soit Émergence ou d'autres, je crois que c'est très important l'accompagnement. Cette notion de parrainage par un chef d'entreprise, c'est quand même très important parce que c'est le recul et c'est une vision globale. Et tout porteur de projet a des trous dans les compétences. Et donc, je dirais, quand on accompagne, on voit tout de suite les trous, et puis on voit aussi les incohérences entre les différentes politiques qu'on peut avoir, ressources humaines, marketing, production, etc. Ouais. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à se faire accompagner. Et il y a beaucoup de créateurs qui sont réticents à cet accompagnement. Moi, je l'ai vu chez Initiative France, où le parrain n'est pas obligatoire, et où finalement, quand ils peuvent opter, dans la majorité des cas, ils optent pour ne pas avoir de parrain.
Ouais. Donc, ils viennent pour prendre des sous, et après le reste...
Qui, à mon avis, est une erreur.
Ouais. Il y a aussi le phénomène que nous avons, on en a discuté pas mal avec Ronald Pierre, avec Osons ici maintenant, que même le fait d'être dans des projets collectifs ou d'être accompagné, on voit toujours très très bien les erreurs sur les projets des autres, mais sur les siens, c'est compliqué quand on a la tête dans le guidon. Et ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui a le recul nécessaire pour juste voir les erreurs énormes que nous on peut pas voir parce qu'on a les œillères sur le projet, c'est sans doute une valeur ajoutée énorme. En tout cas, on souhaite bon courage à la Fondation. Beaucoup d'accompagnement et beaucoup de jolis projets qui sortent. On a dit ce qu'il fallait faire si on voulait postuler. Est-ce que des chefs d'entreprise qui nous écoutent peuvent vous rejoindre ?
Tout à fait, oui. Tout chef d'entreprise qui a envie de s'investir à la Fondation est le bienvenu. S'il nous rejoint sur les valeurs qu'on porte, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille aussi. Plus on pourra accompagner de projets et mieux ce sera.
Oui, je pense que les chefs d'entreprise peuvent nous rejoindre, mais les entreprises aussi peuvent nous rejoindre, parce que je pense que c'est aussi une forte valeur ajoutée pour des cadres dirigeants dans des entreprises plutôt structurées que d'accompagner des projets de création. Et je pense que ça peut tout à fait s'inscrire dans une politique RSE d'entreprise, par exemple.
Ouais, des actions pro bono pour des petits projets ou de l'accompagnement tutoré.
Oui, venir aux séances miroirs. Enfin, ça peut être aussi à la carte, un peu du temps plus ou moins important consacré à la Fondation. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout type d'entreprise à la Fondation. Il y a à la fois des grands groupes, des ETI, mais aussi des petits cabinets, que ce soit de consultants ou d'avocats.
ETI égale entreprise de taille intermédiaire.
Et pour les jeunes, ça veut dire grosse start-up. Très bien. Eh ben, merci à vous. Je pense qu'on en sait plus. Donc, jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas à contacter Estelle si vous souhaitez être accompagné par des dirigeants lyonnais et accompagné par la Fondation Émergence. Et entreprises et chefs d'entreprise, n'hésitez pas à les contacter également pour venir participer à l'aventure et apporter votre pierre à l'édifice. Très bien, alors je vous remercie, on en sait un petit peu plus sur Émergence. Comme vous le savez peut-être, on a des millions d'auditeurs. Certains sont connus et ils nous envoient des questions. Ils ont su qu'on allait vous recevoir, donc on a reçu des questions. Donc on va vous les poser. Alors, j'ai une première question de Gérard Collomb. Qui dit « J'ai tenté de bosser à Paris, mais finalement je suis mieux à Lyon. Et vous ?» Je pense sous-entendu, Gérard je le connais un petit peu maintenant, il me pose régulièrement des questions. Sous-entendu, est-ce que vous comptez vous concentrer sur le territoire, ou est-ce que vous avez vocation à en sortir un petit peu, à partir un peu des frontières lyonnaises ou rhône-alpines ?
Moi j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Lyon, maintenant je vis en pleine campagne dans le sud de la Drôme. Je pense que Lyon a vraiment des atouts exceptionnels parce que le positionnement géographique, d'une part, et puis c'est vraiment une ville de taille intermédiaire par rapport...
Une VTI.
Ouais, une VTI, absolument. Je dirais, il y a quand même beaucoup d'avantages de la grande ville. Bon, il n'y a pas tout ce qu'il y a à Paris, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients... qui sont à Paris, un niveau de stress qui est absolument différent, sans doute un niveau de pollution aussi un peu différent. Moi je trouve que Lyon est un superbe compromis.
Ouais, et puis nos chefs d'entreprise, pour revenir à la Fondation, sont tous connaissent tous très bien le territoire lyonnais. Donc nous, on, pour l'instant, on a vocation à rester sur la région lyonnaise, mais parce qu'on connaît bien le territoire et que c'est là où on sait qu'on peut aider les porteurs de projets pour l'instant.
Très bien. C'est une réponse qui va faire plaisir à Gérard, en tout cas. Donc on vous remercie. Deuxième question. Alors c'est une question pour Estelle. C'est une question d'une certaine Fanny LD. Qui demande pas trop dur de travailler avec des patrons tout le temps, il paraît qu'ils sont difficiles à vivre. Je sais pas qui est cette Fanny.
Fanny est ma déléguée générale. Donc
on lui fait un petit clin d'œil.
On pourrait croire, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai énormément de plaisir à travailler avec ces patrons lyonnais qui m'appuient énormément, qui travaillent vraiment en collectif pour aider les porteurs de projets, qui sont aussi très bons dans leur parrainage, qui nous font toujours des bons retours aussi pour nous améliorer. Et donc pas de stress et beaucoup d'apprentissage pour moi, donc c'est un vrai plaisir.
Moi, ça va faire plaisir à Fanny également, je pense. Merci. J'ai une troisième question de Kevin Startup qui demande. Il demande « Mon projet de véhicule électrique ubérisé en blockchain n'est pas retenu. Pourtant, c'est innovant et ça améliorerait le quotidien de beaucoup de monde. Pourquoi ?»
Bon, je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais la question revient en fait, c'est comment mettre le curseur, comment juger l'ambition sociale d'un projet. Et vous y avez répondu, du coup, c'est en rencontrant les personnes finalement. On est vraiment sur de l'humain, ouais, je ne dis pas de bêtises. Bon, bah, Kevin, merci pour ta question, mais on y avait déjà répondu. Et j'ai une deuxième question de Kevin, donc Kevin Startup, qui demande « Comment un dirigeant de 60 ans peut m'aider sur mon projet digital ?» Ah, alors question intéressante de Kevin, j'aime bien celle-là.
Ouais.
Déjà, moi je suis trop vieux, je ne vais pas pouvoir l'aider, c'est pas vrai. J'aime bien les projets digitaux, j'en supervise un d'ailleurs.
Alors nos dirigeants sont tous en poste, la moyenne d'âge n'est certainement pas de 60 ans, mais elle n'est pas non plus de 30 ans. donc sur les projets numériques, alors bizarrement, par exemple Lucas qui a un projet numérique, qui a un super parrain qui n'est pas forcément sur le développement de sa plateforme, mais par contre qui a une vision pour sa plateforme avec lui, quoi, qui partage sur la vision de ce qu'il peut en faire. Donc il y a quand même une connaissance de l'utilité qui peut y avoir.
Eh oui, bien sûr.
Mais pas par contre, effectivement sur le développement, je pense que.
Je pense que c'est une question intéressante parce que il peut y avoir une confusion sur le type d'apport. En fait, la Fondation Émergence, elle n'est pas là pour apporter de l'expertise technique. Elle est là pour apporter un recul, une vision globale. Alors après, ponctuellement, on peut avoir des questions techniques, mais l'objectif, c'est pas de solutionner des questions techniques. Il y a des consultants pour ça, quoi.
Bien sûr.
On peut mettre en évidence une problématique, mais de là après à faire un travail pour la solutionner, c'est pas du tout le job d'Émergence.
Ouais, bien sûr. Je pense que voilà, Kevin, t'as ta réponse, et je pense que voilà, c'est pas parce que tu sais coder, tu sais faire des choses, que tu sais tout, et l'expérience, ça a de la valeur. Donc, merci Kevin pour tes questions, merci à Fanny et Gérard pour leurs questions. C'était tout pour les questions des auditeurs de cette semaine. Deuxième partie de l'interview, on va plus parler de vous. Alors moi maintenant, ce qui m'intéresse, donc on a vu la fondation, j'ai la chance d'avoir deux personnes avec moi qui participent chacune à leur manière à la fondation. On va donner l'honneur à Estelle, on va être galant. Et alors, sans vouloir juger de quoi que ce soit, ça va être un petit peu plus long avec Jacques, peut-être. L'expérience est peut-être un petit peu plus longue. Donc, on va commencer à parler d'Estelle. Comment t'as rejoint la Fondation, Estelle ?
Alors, comment j'ai rejoint la Fondation ? Je l'ai rejoint par un connaissance qui m'a envoyé l'offre en me disant « Écoute, ça te correspondrait. » Et du coup, moi, j'étais en poste dans une pépinière à Grenoble, où j'étais très bien, ouais. Mais...
Qu'on peut citer, comment elle s'appelle ?
Qui s'appelle la Poussada.
La Poussada, très bien.
Donc, c'est... Enfin, il y a une pépinière, et puis il y a un espace de coworking, et puis un hôtel d'activité. Mais par contre, j'étais à temps partiel, et voilà, du coup, quand j'ai vu le poste émergence, en fait, j'ai flashé, je me suis dit, oui, c'est totalement aligné avec ce que je veux faire. Puisqu'il y a cette vocation sociale qui me manquait dans la pépinière, en fait. Donc ouais. Voilà, j'ai postulé et je pense que ils m'ont retenu au bout de 3 entretiens.
Ils t'ont fait des entretiens miroirs aussi.
Voilà, exactement. Ils étaient à peu près 7 au premier entretien, donc effectivement, ça pouvait être une sorte
d'entretien
miroir.
Pas stressant du tout.
et voilà, quand j'y suis arrivée, il y a 3 ans. Mais pour revenir peut-être au démarrage, moi je viens du monde paysan, donc ouais. Rien à voir. Mais par contre, les deux valeurs de ce monde-là et que j'ai, je pense, garder, c'est la valeur travail et la valeur d'entraide. Donc je l'ai retrouvé dans mes études, j'étais quelqu'un de bosseuse, j'ai eu une passion pour l'économie et du coup voilà, je suis allée en école de commerce pour mettre l'économie au service de la société. Et j'ai fait mon chemin en école de commerce en gardant toujours cette vision-là.
Donc t'as fait l'EDEC, hein, tu disais.
Et j'ai fait l'EDEC, ouais, tout à fait, à Lille. Et quand je suis sortie de l'école, après avoir testé plusieurs choses, j'ai été dans le financement de créateurs d'entreprise, puis dans l'accompagnement d'associations, et enfin en pépinière et puis à la fondation sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux. Et là, je m'y retrouve totalement alignée avec la valeur travail, entrepreneuriat, et puis la valeur d'entraide.
Ouais, la valeur humaniste, peut-être.
Voilà, humaniste. Ouais.
Et alors, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup... Nos auditeurs sont beaucoup de ta génération et ont beaucoup des parcours comme le tien, d'école de commerce. Voilà. T'as l'impression d'être un ovni, d'avoir fait une école de commerce et de te retrouver à travailler sur des projets qui ont plus des vocations sociales et humaines, ou tu penses que c'est quelque chose qui se démocratise en ce moment, voire qui est vraiment tendance?
Je pense que c'est vraiment une tendance en ce moment. Beaucoup de. Ben après, il y a tout en école de commerce. Hein. Les promos sont grandes. Les écoles de commerce sont nombreuses. Donc il y a vraiment de tout. Et en fait, on y met ce qu'on veut dans une école de commerce. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons nos stages, c'est nous qui choisissons nos cursus si on veut aller à l'étranger. On choisit là où on veut aller. Donc c'est vrai que c'est vraiment un endroit où on peut faire ce qu'on veut de nos études. Et du coup, on peut en arriver derrière à travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat social ou de l'économie sociale et solidaire.
La caricature des jeunes d'école de commerce qui ne pensent qu'au fric et qui montent des projets à 18 ans et qui veulent faire fortune, elle est quand même un peu vraie. Ou c'est quelque chose qui est vraiment ou c'est justement un cliché qui est vraiment en train de changer pour toi? Pardon, on croise les doigts.
On croise les doigts pour ça.
Jacques croise les doigts.
Ouais, je pense que ça change, et pour ceux qui de ma promo qui étaient dans cette vocation-là, en fait, beaucoup ont changé leur fusil d'épaule et ont cherché du sens dans leur boulot à partir du moment où ils ont essuyé un peu les plâtres de ce que ça pouvait être d'être dans ce milieu sans avoir forcément de sens dans son travail.
D'accord. Et donc, à partir du moment où tu es arrivé chez Emergence, entre l'image que tu t'en faisais avant de rentrer et ce que tu vis au quotidien, il y a des différences que tu as constatées, il y a des choses
C'est la question que posait Fanny, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on peut se donner plein de préjugés sur les grands patrons, et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer.
Comme sur les étudiants d'école de commerce, finalement.
Exactement.
D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci Fanny. En tout cas, c'est intéressant, et je pense qu'on a pas mal d'auditeurs qui vont se reconnaître dans ton ambition et dans tes envies. Donc, on leur souhaite de faire le même parcours. Et du coup, maintenant, on va passer à Jacques. Alors, j'ai étudié un peu vos CV à tous les deux. Celui de Jacques, il est un peu long.
Désolé.
On va faire une deuxième émission juste avec Jacques. Non, mais du coup, c'est super intéressant. Donc, comment t'as atterri à la fondation déjà, Jacques?
J'ai atterri à la fondation parce que j'ai été sollicité par un des membres, et comme j'aime bien tout ce qui est création d'entreprise d'une part et création d'entreprise sociale encore plus, voilà, je me suis dit allez, on va aller donner un petit coup de main.
C'était il y a combien de temps?
Je sais pas, 4 ans, 5 ans.
4-5 ans.
Quelque chose comme ça, oui, 4-5 ans.
Mais bon, tu avais déjà un parcours du coup. En fait, est-ce que je dis une bêtise? Quand j'ai vu ton CV, je me suis dit il a eu deux vies. Il a eu 20 ans d'Ernst & Young, ou c'était peut-être pas forcément l'entrepreneuriat social à plein temps, j'imagine,
pas
chez EY.
Complètement.
Et il y a 20 ans, sur lequel on parle d'handicap international, on parle d'émergence, on parle de projets comme ça. Il y a eu il y a un vrai pivot dans ta vie à un moment là-dessus.
Ah, complètement, ouais. Oui. Ah ben, c'est le grand écart, je dirais, parce que j'ai passé 25 ans chez EY, ça s'appelle EY maintenant, donc d'assistant à directeur général pour la France, donc dans une période qui était assez exceptionnelle pour ce secteur, puisque quand je suis rentré, il y avait 80 personnes, quand j'en suis sorti, il y en avait 3600.
Ouais.
Donc,
on va rappeler en deux mots ce que c'est Ernst & Young.
C'est un cabinet d'audit et de conseil, un des grands cabinets internationaux d'audit et de conseil qui emploie, je crois, 120 000 personnes dans le monde.
Et qui accompagne, du coup, les plus ou moins grosses boîtes, mais souvent les grosses entreprises sur les problématiques bien précises.
Disons qu'il y a 4 grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde, et ces 4 grands cabinets ont le monopole, on peut dire, par exemple, dans les 1000 plus grosses entreprises mondiales. Ils ont 100% de ce marché.
Ouais. Bon, c'est EY, c'est KPMG, c'est les gens comme ça, c'est Boston Consulting Group.
Deloitte, KPMG, EY et PricewaterhouseCoopers. Okay.
Donc pendant 25 ans, tu as bossé sur des sujets d'entreprise. J'imagine rarement des projets sociaux.
Oui, pas de
projets. Et au bout de 25 ans, t'es passé chez Handicap International.
Ouais.
Comment ouais, le pivot,
j'ai,
c'est...
J'ai basculé dans le bénévolat.
Dans le côté obscur.
Dans le côté...
Ou dans le côté lumineux, peut-être.
Ouais, plutôt les deux. En fait, bon, dans mon parcours, j'ai créé le bureau de Lyon d'Ernst & Young, et que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années ou une douzaine d'années avant d'aller à Paris. Et étant à Lyon, d'ailleurs, j'ai créé aussi l'activité entrepreneur d'Ernst & Young, parce qu'à Paris, ils avaient des grands comptes. Et, ouais. Et donc, ils ne savaient pas ce qu'était une PME. Donc, j'ai créé cette activité que j'ai aussi dirigée pendant un certain nombre d'années avant d'aller à Paris. Et à cette occasion, on a un jour reçu l'appel d'offres d'Handicap International auprès de ce qu'on appelait à l'époque les Big Eight. À l'époque, il y avait 8 grands cabinets mondiaux. Maintenant, il n'y en a plus que 4 parce qu'ils ont fusionné entre eux. J'ai fait leur connaissance. C'est Ernst & Young qui a obtenu qui a gagné l'appel d'offres. Et donc, je les ai rencontrés un certain nombre de fois jusqu'en 2000, date de mon départ d'Ernst & Young. Quelques jours après que je sois parti, ils ont eu l'information que je partais. Ils m'ont demandé si je voulais devenir administrateur de ce qu'était Hachi France à l'époque. Ouais. Puisque à l'époque, il y avait dans Handicap International 8 associations indépendantes. Et donc, j'ai dit pourquoi pas, hein, parce que c'était une époque où je me posais la question. J'ai aussi créé à cette époque une association qui s'appelle les entreprises humaines. Mm-hmm. Donc voilà, ça me travaillait un peu. Hein. Quel âge j'avais d'ailleurs en 2000, j'avais 53 ans. Voilà, donc c'est peut-être un âge où on se pose quelques questions sur l'utilité de ce qu'on fait. Après je suis devenu trésorier d'Handicap France, président d'Handicap France, et quand je suis devenu président d'Handicap France, j'ai vraiment travaillé pour qu'on crée une fédération internationale qui a été créée en 2009 et dont j'ai pris la présidence, que j'ai quittée fin juin dernier.
Récemment, ouais, tout récemment.
Donc en fait, c'est ma troisième vie que je prépare là.
D'accord. Donc
mais là... je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans. Enfin, je fais quand même quelques petits trucs, je faisais quelques petits trucs à côté d'Handicap International. Un peu dans l'économie sociale, autre chose dans l'humanitaire aussi. Voilà, donc maintenant... Voilà, je fais un appel à... C'est quoi ? C'est l'inverse de l'appel à candidature. Ouais.
C'est une proposition de...
Voilà, une proposition de projet structuré que je pourrais accompagner lourdement.
D'accord. Ouais. Donc, je pense que le message va passer et je pense que ça peut intéresser du monde. Donc, Handicap International, tu as participé grandement à la Fédération d'Handicap International au niveau mondial.
Oui, c'est ça, oui. Donc,
aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une...
Alors aujourd'hui, il y a une fédération qui chapeaute l'ensemble, c'est-à-dire qui supervise les 8 associations nationales, dont Handicap ou Hachi, maintenant on dit beaucoup Hachi. D'ailleurs, la fédération s'appelle Humanity and Inclusion, donc Hachi. La fédération chapeaute ces 8 associations, et par ailleurs, à l'exclusivité, et ces associations ont pour rôle de collecter des fonds, et la fédération a l'exclusivité des programmes qui se déroulent dans 62 pays. Il y a à peu près environ 4000 collaborateurs chez Handicap International. Donc c'est une grosse et belle machine lyonnaise.
Lyonnaise. Et on rappelle ce qu'Handicap International fait. Donc ils interviennent sur les zones plutôt compliquées, on peut dire. Hein.
Oui, en fait, il y a plusieurs activités. Il y a des activités dans les pays plus calmes, même s'il y en a de moins en moins.
Ouais.
Donc, dit en développement, sur lesquels on est focalisé sur les personnes en situation de handicap dans une vision globale, hein, c'est-à-dire du soin jusqu'à l'intégration dans la société, jusqu'à l'aide des structures d'handicapés dans ces pays-là, les aider à se développer. Et puis après, il y a tout ce qui relève de l'urgence, c'est-à-dire les suites de conflits armés ou de catastrophes naturelles, où là, on a un champ d'action qui est plus large. Il y a les personnes handicapées, et il y a les personnes âgées, il y a les femmes enceintes, il y a les enfants seuls.
Et on peut dire qu'en ce moment, malheureusement, HI a beaucoup de boulot.
Ah oui, oui,
depuis quelques années, ça va pas dans le bon sens.
Beaucoup de boulot, et dans un contexte qui est de moins en moins sécure.
Bon, en tout cas, on souhaite... Déjà, on félicite toutes. On félicite toi, mais on félicite toutes les équipes de HI qui font un boulot de dingue et qui sont, euh, qui qui sont éminemment utiles en ce moment. Malheureusement, très utiles en ce moment.
Mais si je peux...
Bien sûr.
Un petit truc, parce que je me suis engagé l'année dernière dans une autre ONG humanitaire, une toute petite ONG humanitaire qui démarre, puisqu'elle a pour l'instant n'a développé qu'un programme en Malaisie, elle est en train d'en lancer un en Ouganda, qui s'appelle Urban Refugees, donc qui est implanté à Paris et à New York, et qui a pour vocation de discuter avec les communautés de réfugiés urbains pour voir quels sont les projets dans lesquels on peut les aider pour qu'ils deviennent autonomes.
D'accord, donc le rôle de l'ONG, c'est, si j'ai bien compris, de se rapprocher des gens qui sont déjà... Par exemple, des migrants qui sont arrivés aujourd'hui à Paris, dans
les villes, parce qu'en fait, la plupart des réfugiés dans le monde sont dans les grandes villes. Ouais. Et donc, ils se structurent en communautés. Et donc, il y a l'approche de ces communautés pour leur dire, bon, quel type de projet on peut vous aider à mener pour que vous soyez plus autonome. Alors, du type des formations, apprendre à un groupe de femmes à utiliser... Une machine à coudre, mettre en place une petite appli sur le téléphone pour que dès qu'on a connaissance d'un emploi, l'ensemble de la communauté ait connaissance. Mm-hmm. Enfin, voilà, des choses comme ça qui permettent de faire progresser la communauté dans son autonomie.
Le but étant du coup d'aider ces personnes qui sont en situation d'être des réfugiés, à devenir des citoyens, c'est-à-dire de les intégrer, de les aider à trouver du boulot, d'un logement.
De devenir autonome et de pouvoir effectivement être dans des conditions de vie qui sont un petit peu meilleures. Mmh.
Donc ça s'appelle Urban Refugees ?
Urban Refugees, oui.
Bon, eh ben le message est passé.
Je fais un peu de pub.
Mais tu as raison, on est là pour ça. Écoute, Jacques, après, je pense qu'on pourrait passer 2 heures avec toi à parler d'handicap international.
Ah, ben, volontiers.
Eh ben, écoute, Jacques, le rendez-vous est pris.
Ça marche.
On fera un podcast sur handicap international à l'occasion et tu seras réinvité avec grand plaisir. Maintenant, pour tous les deux, du coup, avec vos parcours, avec ce que vous faites avec la Fondation, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que la Fondation ait encore plus d'impact, se développe ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, en gros ? Est-ce que les auditeurs de Kino Superstar peuvent vous apporter quelque chose ?
Ben, c'est en amont du sourcing, en aval des fondateurs, voilà, un peu des deux. Parce que, bien sûr, pour avancer, il faut des moyens, parce que pour gérer les projets, il y a quand même toute une mécanique qui ne peut pas être 100% bénévole. Mmh. Et donc il y a un coût. Et plus on aura de fondateurs, et plus on aura à la fois des fonds pour développer la structure, et aussi des bonnes volontés pour les accompagner. Et puis aussi du sourcing, parce qu'il y a beaucoup de projets. Et il faudrait essayer d'en récupérer un maximum, quoi.
Est-ce que des gens peuvent faire du bénévolat pour votre fondation d'une manière ou d'une autre ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles des gens pourraient vous aider, qui ne sont ni cadres d'entreprise ou chefs d'entreprise, ni porteurs de projets ?
Non, alors aujourd'hui, en fait, le système est conçu pour des fondateurs et des personnes qualifiées. Alors, personnes qualifiées, c'est des gens soit qui ont une compétence spécifique, soit beaucoup d'expérience.
Oui, des gens comme toi qui ont une expérience, du coup, qui peuvent accompagner un jeune porteur de projet ou un jeune chef d'entreprise sur des thématiques un peu transverses. Voilà. Très bien.
Et par contre, on a aussi des gens qui nous aident en mécénat, en compétences, des boîtes, par exemple en communication, en relations presse.
Donc ce sont des personnes qui font des actions, on appelle ça des actions pro bono, je crois.
Exactement.
Qui viennent bosser quelques heures, au nom de leur société d'ailleurs, souvent.
Exactement, et à qui on peut délivrer des rescrits fiscaux pour que leur action soit quand même... rémunérés en défiscalisation.
Bon, ben voilà, le message est passé. Je pense que c'est... j'espère que beaucoup de monde va continuer à participer à Emergence et à vous aider. Dans tous les projets que vous voyez, donc, qui ont tous pour vocation de répondre à une problématique, en général une problématique précise, dans quel secteur, selon vous, il manque le plus d'innovation aujourd'hui ? Quel est le manque que vous voyez, les projets que vous aimeriez bien voir arriver ? Donc tu parlais de Urban Refugees pour les populations de migrants, ça c'est peut-être des choses sur lesquelles il y a des projets qui se montent. Est-ce que selon vous, il y a des manques? En gros, la question que j'ai derrière ça, c'est donner des idées à nos auditeurs pour qu'ils montent des projets et qu'ils viennent vous postuler chez Emergence pour monter des belles histoires.
Mais je pense qu'on est... C'est bien d'être innovant, mais on n'est pas obligé de l'être. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs et puis de refaire la même chose. On prend 500 projets, on regarde, et puis là-dedans, on doit bien en trouver un qui est sympathique à faire pour chacun.
Quoi. Ouais. Donc le massage, c'est lancez-vous.
Parce qu'il y a tellement de besoins qu'on peut faire deux fois la même chose. Mmh. Ou deux fois la même chose dans des villes différentes ou même dans les mêmes villes.
Mmh. Donc le message, regardez ce qui se fait ailleurs et lancez-vous.
Voilà.
Et venez voir Emergence. Très bien. Eh bien, je vous remercie. C'était super intéressant de voir comment tout ça fonctionnait.
On Merci
en
à
un
toi.
Petit peu plus, mais c'est avec grand plaisir. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Avant, on a un petit quiz. Alors c'est très simple, hein, et c'est juste pour en savoir un tout petit peu plus sur vous. Je vous laisse deux alternatives, je veux un choix. L'idée c'est, je vous laisse une alternative, enfin je vous laisse deux options. La première vous la choisissez, la deuxième n'existe plus. C'est vraiment un choix dramatique. il faut choisir. Alors, première question, est-ce que vous préférez qu'on conserve sur Terre l'alimentation végane ou l'alimentation avec de la viande de qualité? Sous-entendu, si tu dis vegan, tu ne manges plus jamais de viande de ta vie, personne ne mange plus jamais de viande de ta vie.
Moi, c'est l'alimentation avec de la viande de qualité. Ah. Mon père étant paysan,
oui.
C'est compliqué d'aller dans l'autre sens.
Moi, je vais dire vegan.
Vegan.
Histoire de dire le contraire.
Par simple esprit de contradiction, donc.
Absolument.
D'accord, très bien. Là, c'est marrant, en fait, dans la première saison de Quinoa Superstar, la question c'était qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères manger vegan ou de la bonne viande, etc.? Donc, tout le monde me disait oui, non, vegan c'est un peu mieux, etc. Mais par contre, quand on laisse le choix strict, tout le monde me dit viande depuis le début, quasiment. donc on a, mais toi tu as des raisons familiales, quelqu'un qui préfère la viande et on a un vegan. Littérature ou musique?
Ah, c'est difficile.
Ah oui, c'est dur.
Littérature pour moi.
Je crois que moi aussi, ouais.
Ouais, littérature pour les deux, très bien. Apple ou Microsoft?
Ni l'un ni l'autre.
Voilà, bon, c'est simple. Pour l'accès simple. Et toi, Estelle?
Eh ben, nous, on est sur Microsoft, donc je peux pas dire que je le sens. C'est pas possible.
Nouvelle technologie, blockchain ou intelligence artificielle?
Oh, intelligence artificielle, il y a beaucoup plus de potentiel que dans la blockchain.
Ah, tout le monde n'est pas d'accord.
Vraiment?
Ah
oui.
Ah ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, on en discutera hors antenne autour d'un café. Voilà, on discutera après handicap international.
Moi, je n'y connais rien. Donc
très bien.
Je ne réponds pas.
Gonette ou Bitcoin?
Gonette.
Donc, on rappelle à nos auditeurs ce que c'est. La gonette, c'est la monnaie locale lyonnaise. Et le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie internationale basée sur la blockchain, justement. Qui ont toutes les deux des vocations et des possibilités très différentes.
Bitcoin, c'est génial pour s'en mettre plein les poches.
Et
puis perdre après tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a perdu.
Ouais, exactement. Mer ou montagne?
Montagne, mais, sans hésitation.
Ah, bah, voilà.
Ah, là, on est vraiment fait pour s'entendre avec.
Mais pas mais bon. Par contradiction.
Non, non, on a le sud de la Drôme.
Très méditerranéen, ouais. D'origine.
Ouais, t'as fait Paris, Lyon, sud de la Drôme. Bah,
j'ai fait Nice,
Nice
où je suis né.
Bon.
Mais moi, je suis né en Vendée et j'ai choisi la montagne.
Ah oui.
Ouais,
okay.
Sans hésitation.
Et enfin, la dernière question, est-ce que vous préférez les curly, donc ces petits gâteaux apéritifs à la cacahuète, ou le curling, ces magnifiques sports de glace? C'est une question qui est très personnelle, mais c'est juste pour en savoir plus sur vous.
Moi, je préfère tout ce qui se mange, donc je ne sais pas ce que c'est que ce curly, mais comme ça se mange, ça me
donc les curly pour Jacques.
Moi, pour le son, je préfère le curling. Ça fait frotte, frotte, frotte. Alors que le curling, ça fait chronk, chronk, chronk. Je trouve que c'est moins joli.
Bon, bah merci. C'est la bonne réponse, c'était Estelle qui l'a donnée. Le curling est évidemment le plus joli des sports, mais malheureusement très méconnu. Je vous remercie. C'était vraiment très sympa de vous avoir.
Merci à toi.
Avec
merci
grand plaisir.
Écoutez les podcasts parce que tous les autres aussi sont super intéressants.
Et bah merci Estelle. Et puis, bah, on va vous retrouver pour des séances miroirs et pour des accompagnements très prochainement. Donc, bon courage à tous.
Merci.
Et puis à bientôt.
À bientôt. Okay.
Merci à vous. Voilà, l'émission est maintenant terminée. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer.
Si vous voulez nous soutenir, prenez quelques instants pour nous donner une bonne note sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts et SoundCloud. Et n'hésitez pas à le faire connaître à votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, votre mémé, votre patron. S'il y a des personnes que vous souhaiteriez voir invitées dans Quinoa Superstar, faites-le nous savoir et nous essayerons de les avoir dans une prochaine émission. En temps normal, l'émission est diffusée tous les 15 jours, donc s'il n'y a pas de catastrophe d'ici là, je vous dis à dans 15 jours. Salut à tous!